Cinquième leçon, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, en une heure. Je donnerai un peu de temps à la fin aussi pour poser quelques questions. Donc il ne s'agit pas d'une étude en profondeur, mais d'un survol. Et c'est plus dans le sens de placer les événements dans leur chronologie, de voir un peu comment la Bible s'articule, savoir si Abraham vient avant David, ce genre de questions. Des fois, si on vous demandait à brûle pour point, on a fini de parler d'Abraham, la promesse d'Abraham, on a fini la Genèse avec Joseph. Joseph, on n'a pas eu trop le temps de s'apesantir sur la typologie, c'est-à-dire la comparaison avec la vie de Jésus. Jésus est en fait préfiguré par Joseph. Juste un petit épisode, vous vous souvenez qu'en prison, Joseph s'était retrouvé avec deux personnes, il y en avait un boulanger et un échanson, il y en avait un qui avait eu la tête coupée, l'autre qui avait été libéré. Petite idée, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Sur la croix, Jésus se trouvait au milieu de deux personnes, deux brigands. Et de la même façon, il y en a un qui a été sauvé et l'autre qui n'a pas été sauvé. Et quand on étudie un peu en détail cette comparaison, l'étude de la Bible devient absolument fascinante. La Genèse s'est donc terminée par la mort de Joseph. Et on voit qu'en Égypte, puisque le peuple d'Israël avait déménagé en Égypte, ils sont allés en Égypte comme une famille, ils vont en ressortir comme un peuple, une nation, après 400 ans d'esclavage qui avait été prévu par le Seigneur, prophétisé par le Seigneur dans sa promesse faite à Abraham. Ce qui est formidable, c'est de réaliser qu'en fait, cette nation, non seulement elle est sortie d'Égypte, mais elle est toujours présente aujourd'hui. C'est un fait unique dans les annales de l'histoire de l'humanité qu'un peuple qui était ainsi dispersé se soit retrouvé comme une nation plus de 2000 ans plus tard. L'Exode, c'est donc la sortie, c'est ce que veut dire le mot, hein, quand on dit en anglais, exit, exo, c'est le mot grec qui veut dire sortir d'eux. C'est la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Et le thème, c'est le rachat du peuple après 400 ans d'esclavage. L'Exode était un peu forcé sur les Israélites parce qu'ils s'étaient multipliés. Vous vous souvenez que Joseph était le premier ministre du Pharaon qui avait sa faveur, que le Pharaon leur avait donné le meilleur territoire qui soit en Égypte, le territoire de Goshen, qui était très fertile, où ils s'étaient multipliés. Mais il y avait eu un autre Pharaon. Et cet autre Pharaon, c'était le livre des Actes. Il y a le diacre Étienne qui donne, si vous en souvenez, au chapitre 7, un cours d'histoire aux érudits d'Israël, les pharisiens et les scribes. Il leur donne un cours. C'est un chapitre fascinant, le chapitre 7. Et là, lorsqu'il parle du problème de cet autre pharaon, il utilise un mot qui veut dire un pharaon d'une nature différente. On avait vu la semaine dernière, lorsque Nick nous avait parlé du consolateur que Jésus allait envoyer, ça allait être un autre consolateur, et le mot là, c'était un autre de même nature, le mot halos. Là, c'est le mot qui veut dire c'était un pharaon d'une nature complètement opposée, et on pense même que c'était peut-être pas un égyptien, on pense que peut-être c'était un assyrien qui était arrivé à prendre le trône, et lui avait forcé un esclavage encore plus dur sur les israélites, qui, vous le souvenez, vous avez peut-être vu les 10 commandements, le film d'Hollywood, qui montrait que les juifs travaillaient durement pour construire les monuments de l'Égypte. Et il y a un homme que Dieu a suscité un Lévite qui s'appelait Moïse. Alors Moïse, son nom veut dire tirer, sauver des eaux. Vous vous souvenez qu'il est né pendant un génocide. Le pharaon avait décidé de faire tuer tous les enfants mâles pour réduire la croissance des juifs dans la nation égyptienne. Et cet homme va être préparé pendant 40 ans à la cour du pharaon. C'était un peu comme se retrouver à l'ENA et Polytechnique en même temps. Et puis, le Seigneur va l'envoyer 40 ans dans le désert, d'où l'expression « la traversée du désert », qu'on reprend lorsque des grands hommes ont des périodes difficiles dans leur vie, comme le général de Gaulle, qui après la victoire de 45 avait traversé le désert jusqu'à ce qu'il soit rappelé au gouvernement en 1958. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, Dieu préparait Moïse. Il ne l'avait pas envoyé par hasard dans le désert, il l'avait envoyé dans le désert de Madian, un territoire dans lequel il allait errer plus tard, pendant 40 ans encore, avec un peuple. Donc c'était un territoire qu'il allait connaître comme le fond de sa poche. Donc 40 ans à la cour du roi, 40 ans dans le désert et 40 ans à libérer le peuple de Dieu. Dieu avait répondu à la détresse du peuple de Juif en suscitant Moïse et en lui demandant d'aller délivrer son peuple. Petit épisode, c'est qu'en fait Moïse avait tout de suite dit qu'il ne pouvait pas parler. Il avait du mal à parler, donc il voulait que ce soit son frère Aaron qui soit son porte-parole. Et le Seigneur avait accédé à cette demande. Mais quelqu'un faisait remarquer que c'est toujours bon lorsque le Seigneur vous demande quelque chose de ne pas vous sentir capable d'assurer cette mission. Si vous êtes dans une position où vous pensez qu'il n'y aura pas de problème, vous êtes capable de la remplir, alors soit c'est que la mission n'est pas assez grande pour vous, soit c'est de la présomption. Mais il est toujours bon d'avoir cet sentiment d'incapacité, et on le retrouve dans tous les grands hommes de la Bible, chez Jérémie, chez d'autres, ils se trouvaient trop jeunes, trop vieux, pas assez éduqués, etc. Et le Seigneur cherche des gens comme ça qui sont prêts à lui obéir sans avoir les capacités. Parce que c'est là que le Seigneur peut être glorifié, qu'il peut donner les ressources, qu'il peut équiper les gens. Et donc Moïse va être équipé par le Seigneur. Il est appelé dans le désert de Madian par l'épisode du buisson ardent. Et ce buisson, vous vous souvenez, ce buisson qui brûlait sans se consumer, le feu c'est un signe de jugement, et sans être consumé, ça c'est un signe de grâce. Le Seigneur peut juger avec grâce. Et c'est cette grâce, cet amour qui nous attire à lui. Vous vous souvenez de Romains 2, 4, c'est la bonté du Seigneur qui nous amène à la repentance. Ce buisson ardent, donc c'est dans l'Exode 3, si vous voulez suivre avec vos Bibles, on va regarder quelques versets de temps en temps. Il est dit, verset 2, que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange de l'Éternel, on l'a dit, c'est souvent une façon de désigner Jésus-Christ dans une préincarnation. On parle souvent d'ange, de messager dans la Bible, mais lorsqu'il est question de l'ange de l'Éternel, c'est souvent, le plus souvent, du Seigneur Jésus-Christ dont il s'agit. Et Jésus lui-même confirme cela dans Jean 8, 56, lorsque devant les pharisiens, il leur dit « Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour, il l'a vu et s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Cet épisode célèbre nous rappelle que Jésus était en fait celui que Abraham, à qui Abraham avait parlé. Le Seigneur lui promet d'étendre sa main, de frapper l'Égypte par toutes sortes de miracles pour pour pouvoir laisser partir son peuple. Ça, c'est au verset 20. Et Dieu va utiliser des miracles pour sortir son peuple d'Égypte, de l'esclavage. Il l'annonce, il le prédit, et en fait, ce qu'on a coutume d'appeler les fléaux ou les plaies d'Égypte, les 10 catastrophes qui ont sapé la résistance du pharaon, ces fléaux, non seulement c'était des catastrophes avec des choses naturelles qui étaient bizarrement changées en d'autres choses ou qui pullulaient, c'était aussi une façon pour Dieu d'exercer des jugements contre les dieux de l'Égypte. Il l'a même expliqué clairement, ça c'est un verset que vous pouvez retenir, c'est facile, c'est Exode 12, 12. Exode 12, 12. Il parlait de la mort des premiers-nés. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Alors ces fléaux, vous vous souvenez, il y avait l'eau qui avait été changée en sang, l'eau du Nil. Ça, c'était pour remettre à sa place Osiris, le dieu vénéré par les Égyptiens comme étant le dieu du Nil. Il y avait une déesse à tête de grenouille qui s'appelait Ek. Et là, il va multiplier les grenouilles jusqu'à ce qu'elles abondent, qu'elles pullulent, qu'il y ait vraiment une puanteur, parce que les grenouilles qui étaient de partout mouraient. Et il y avait une odeur de puanteur de partout. Il y avait les moustiques. Et là, il est dit que c'est Gé, le dieu de la terre, qui s'est transformé en petit moustique. Il est question des mouches venimeuses. En fait, le mot mouche veut simplement dire essaim d'insecte. Et certains pensent que c'était plutôt des scarabées, parce que le scarabée d'or était aussi une idole des Égyptiens. C'est intéressant que l'immeuble de la rue Magnan s'appelle le Scarabée. Il y a eu la peste du bétail, c'était pas la vache folle, mais il y avait une peste du bétail, il y a eu la grêle, il y a eu les sauterelles, il y a les ténèbres qui étaient tombées sur l'Égypte. Ça, c'était pour remettre à sa place le dieu du soleil, Ra, qui était ainsi humilié. Et puis la mort des premiers-nés allait terminer la dynastie du pharaon. La Bible nous dit que nous devenons comme nos idoles. Et vous avez peut-être déjà vu des fois des sosies de Michael Jackson, d'Elvis Presley, de Johnny Hallyday. Les gens ont vraiment ces personnes comme des idoles. Et leur idée, c'est de devenir semblable. On a même vu des gens qui font de la chirurgie esthétique à la suite de Michael Jackson. C'est du boulot parce qu'ils changent souvent de visage. Mais peu importe la dépense, ils veulent être comme leur idole. Et la Bible nous promet que si nous adorons quelqu'un, nous allons devenir comme lui. Si nous adorons quelque chose, nous allons devenir comme lui. Et quelqu'un faisait remarquer, c'est Chuck Missler qui a suscité ce genre d'étude, la Bible en 24 heures, disait que au cours d'un voyage en Égypte, il avait été frappé par la pauvreté du tiers de ce pays qui pratiquement est un pays du tiers monde. Il n'y a pas d'installation sanitaire, il y a de la poussière, il y a de la boue, il y a de l'insalubrité. Et il disait qu'en fait, les scarabées que les Égyptiens adoraient, c'était des animaux qui faisaient des petites boulettes à partir des excréments des animaux qui passaient dans les rues de l'Égypte antique. Et eux-mêmes, en adorant ces bêtes qui se complaisaient dans les excréments, ils disaient, on voit comment un pays qui était la première puissance du monde à une époque est encore aujourd'hui un pays qui est tombé dans la pauvreté, dans la saleté. Et quelque part, il disait, en fait, ce pays est devenu comme les idoles qu'il avait. Et nous, si nous avons une idolâtrie pour le monde qui nous entoure, pour le matérialisme, pour un monde qui est froid, qui est sans pitié, nous devenons, nous aussi, des gens sans pitié, des gens froids, des gens sans amour. Donc ça, c'est une leçon importante. On voit comment Dieu ne permet pas l'idolâtrie. C'est le dernier mot de l'apôtre Jean dans son épître. Mes petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Gardons-nous de l'idolâtrie. Bien sûr, encore une fois, lorsqu'on étudie la Bible, cherchons à voir Jésus, cherchons à voir la leçon spirituelle. Dieu a utilisé la Pâque pour sauver son peuple, pour le délivrer. Vous vous souvenez qu'il avait envoyé un ange de la mort qui amenait la mort des premiers-nés dans les maisons, sauf si la maison était recouverte, si la porte d'entrée de la maison avait été badigeonné avec du sang d'un agneau parfait qui avait été sacrifié et mangé à la hâte. Et ça, c'était un Égyptien qui aurait mis du sang d'un agneau aurait été sauvé. Un Juif qui n'aurait pas mis ce sang de l'agneau aurait été victime du jugement de l'ange de la mort. Et bien sûr, cet ange de la mort, ce sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus. C'est un symbole de la croix. L'Égypte, c'est une représentation du monde qui rejette Dieu. Pharaon, quelque part, c'est un type de Satan, une préfiguration de Satan qui persécute le peuple de Dieu. Et cette délivrance, c'est lorsque nous mettons notre foi en Christ, que nous mettons au bénéfice du sacrifice qu'il a fait, que nous, en quelque sorte, nous recouvrons le toit de notre maison de ce sang, de l'agneau, que nous sommes épargnés. Et c'est ce que veut dire le mot Pâque, ça veut dire passer au-dessus. En anglais, c'est traduit par l'expression pass over, passer par-dessus. C'est moins parlant en français, mais le mot hébreu pécha, ça veut dire passer par-dessus. Donc ça, c'est l'exode et la libération. La suite, c'est bien sûr les 10 commandements, la loi qui est donnée au peuple juif, ce qu'on appelle des fois l'alliance avec Moïse ou l'alliance mosaïque, les 10 commandements que Dieu a donnés sur ces tablettes de la loi. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas de représentation, de statue, de ce qui est en haut dans les cieux, pas d'adoration donc des idoles, ne pas prendre le nom de l'Éternel, son Dieu, en vain, se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Et puis, ça, ce sont des commandements qui ont trait à Dieu, à l'Éternel. Et puis, les commandements qui s'adressent aux hommes, plus particulièrement, on peut dire que les premiers, concernent notre relation verticale avec Dieu. Les 6 commandements qui suivent sont nos relations horizontales avec les hommes qui nous entourent. Honore ton père et ta mère. Pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage, pas de convoitise. Et ce qui est surprenant, c'est que lorsque on étudie ces 10 commandements, la plupart des gens pensent qu'il suffit d'obéir à ces 10 commandements pour qu'on ait la faveur de Dieu. Entre parenthèses, c'est un passage à bien connaître, c'est Exode chapitre 20, dans lequel les 10 commandements sont donnés. Paul nous explique dans Romains qu'en fait, ces commandements et d'autres passages, que ces commandements ne sont pas donnés comme un outil que nous pouvons utiliser pour mériter l'amour de Dieu, mais au contraire, ils sont donnés pour nous faire réaliser que nous n'arrivons pas à vivre cette perfection que Dieu exige de nous. On verra dans Romains, on l'a déjà vu, qu'il est dit que la loi nous est donnée pour que nous péchions davantage. Pour nous montrer en quelque sorte que sans Dieu, nous n'arrivons pas à respecter sa volonté. Et puis, il est dit qu'en fait, lorsqu'il est descendu de la montagne, Moïse avait les tablettes de la loi sous le bras. Il avait sans doute aussi des plans, comme les plans que les architectes font là, sur du papier bleu à l'ammoniaque. Il avait les plans du tabernacle. Le tabernacle, c'est ce lieu où Dieu allait résider parmi son peuple et où il y allait avoir une rencontre entre son peuple et lui. C'est l'article sur lequel il y a le plus d'informations dans la Bible. Le tabernacle, sur la chose matérielle, c'est là qu'il y a le plus d'informations. Il y a des chapitres entiers à partir du chapitre 25, et c'est repris dans les Nombres et le Deutéronome, qui nous explique en quoi consistait ce tabernacle. Vous vous souvenez qu'en gros, il y avait un parvis, donc une entrée, c'était en fait un temple en toile. C'était comme Dieu qui faisait du camping parmi son peuple. Il y avait une première enceinte en toile qui délimitait le parvis. Et puis à l'intérieur, il y avait une construction temporaire qu'on pouvait démonter et remonter, qui était composée d'abord d'un lieu saint et puis de l'endroit qui s'appelait le Saint des Saints. Et quelque part, là, on peut voir une analogie avec notre propre humanité. Nous avons un corps physique qui nous permet d'être en relation avec le monde qui nous entoure. Ça, c'est l'équivalent du parvis. Nous avons une volonté, une intelligence. Ça, ce serait le lieu saint, ce que la Bible appelle aussi l'âme. Et puis le Saint des Saints, ça, c'est notre esprit. C'est là que nous pouvons être en communion avec Dieu. Donc dans le parvis, il y avait le lavoir où les prêtres faisaient leurs ablutions. Il y avait aussi un autel d'airain, un autel en bronze où ils offraient des sacrifices. Et puis dans le lieu saint, il y avait un premier rideau qui permettrait d'entrer dans le lieu saint. Dans ce lieu saint, sur la gauche, il y avait le chandelier à 7 branches. Sur la droite, il y avait la table des pains de proposition. Il y avait 12 pains correspondant aux 12 tribus d'Israël. En face, il y avait un autel des parfums. Et puis, dans le Saint des Saints, une fois l'an, le grand prêtre, lui seulement, pouvait entrer, après avoir offert un sacrifice pour lui-même, pour offrir un sacrifice pour le peuple, à l'occasion du jour des expiations, du Yom Kippour. Et là, il entrait en tremblant, parce qu'il y avait la présence de Dieu dans ce lieu, dans ce Saint des Saints, qui était présente sous une forme de lumière, de flamme, sur le couvercle d'un arche, le fameux arche de l'Alliance que Spielberg a recherché un peu partout, qui, si on le trouvait, deviendrait une grande idole. On peut imaginer les cars de touristes, les compagnies d'avions qui feraient des vols à longueur d'année pour aller voir l'Arche de l'Alliance. Et cette Arche de l'Alliance comportait trois éléments. Il y avait les tablettes de la loi, il y avait la manne qui allait nourrir les Israélites au désert, et le bâton d'Aaron. Ce qui est intéressant, et bien sûr là on n'a pas le temps, c'est de voir qu'en fait chaque élément, chaque détail de ce tabernacle nous parle de Jésus-Christ. Certains pensent que c'est pas dans la Bible, ce sont des éléments extérieurs à la Bible, ce qu'on appelle des livres rabbiniques, des traditions rabbiniques, expliquant que la première porte qui entrait dans le parvis, donc une première séparation avec le monde extérieur, s'appelait la vérité, le rideau qui vous permettez d'entrer dans le lieu saint, c'était la vérité, et le dernier rideau qui vous permettait d'entrer dans le Saint des Saints s'appelait la vie. Lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », il dit « C'est par moi qu'on accède à Dieu, il n'y en a pas d'autre ». Il a dit qu'il était la porte dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est très riche, on ne peut pas étudier l'évangile de Jean sans avoir ses connaissances dans le Pentateuch. Je suis la porte, je suis la lumière du monde. Il se comparait à cette lumière qui éclairait le lieu saint et cette lumière qui brillait sur l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, j'ai oublié de dire, donc était recouverte d'un couvercle où il y avait deux anges qui se tenaient face à face, et c'est là que le grand prêtre devait offrir les sacrifices. Et ce couvercle s'appelait en grec le propitiatoire, c'est-à-dire l'endroit où on offrait des sacrifices pour s'attirer le pardon et la faveur de Dieu. Le grand prêtre portait sur lui une espèce de chasuble, une espèce de ce qu'on appelait l'éphod, et il avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et ces 12 pierres, on les retrouve tout à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. L'aspect extérieur de ce sanctuaire n'était pas du tout impressionnant. Il y avait, comme dans Jésus, Ésaïe dit qu'il n'y avait rien de remarquable dans la personnalité du Messie, de Jésus. Ce n'était pas le beau Scandinave aux yeux bleus qu'on nous représente des fois à l'école du dimanche. C'était quelqu'un qui... C'était un sémite, probablement brun, peau mate. Et ce tabernacle, en fait, l'endroit, le lieu saint et le saint lieu, à l'intérieur, c'était très beau. C'était recouvert de lin blanc, la pureté. Mais ensuite, il y avait c'était recouvert de poils de chèvre, de tissu de peau de bouc, de peau de bélier. Et puis au-dessus, c'était des peaux de dauphin qui devaient résister aux averses qui pouvaient tomber. Donc à l'extérieur, c'était pas impressionnant, mais à l'intérieur, il y avait la présence de Dieu. Pour nous signifier encore que Dieu ne s'attache pas à l'extérieur. Nous donnons beaucoup d'importance aux cathédrales, aux cérémonies, à la liturgie. Dieu lui regarde au cœur. Le Lévitique, il ne nous reste plus que quelques minutes. Le Lévitique est nommé d'après les tribus des Lévites qui donnaient les prêtres. Et là, on a les descriptions de ce que Dieu exige pour la communion avec lui. Et le mot qui résume le mieux cette exigence, c'est le mot de sainteté. D'être séparé, mis à part, pas pollué par le monde et ses fausses valeurs, mais être consacré à Dieu. Il y a des descriptions des sacrifices, tous ces sacrifices sont des anticipations du sacrifice suprême de la croix. Il y avait des sacrifices volontaires qu'on offrait de soi-même, comme les holocaustes où l'animal était brûlé complètement en signe de consécration totale. Il y avait aussi des sacrifices où on donnait ce qu'on appelait les sacrifices de paix, où on remettait des produits du sol, des récoltes. Et puis à côté de ça, il y avait les sacrifices obligatoires, les offrandes pour le péché et le sacrifice de culpabilité. Il y avait, quelqu'un a dit, une personne qui s'appelait Samson Hirsch, que le catéchisme du peuple juif, c'était son calendrier. Et c'est vrai que l'année du calendrier expliquait la relation du peuple avec Dieu. Aujourd'hui encore, on a des fêtes de traditions religieuses, comme Noël, comme Pâques. Mais maintenant, on pense plus au pont que ces fêtes nous donnent qu'à leur sens religieux. À l'époque, encore une fois, le juif était un des peuples les plus religieux qui ait jamais existé. Leur vie publique était entièrement tournée vers le sacré. Et dans le chapitre 23, c'est un chapitre à connaître aussi, il nous explique quelles étaient ces grandes fêtes. Aujourd'hui, des fêtes comme le 14 juillet sont des fêtes essentiellement commémoratives, c'est-à-dire qu'on célèbre un événement passé, où on se rappelle de l'armistice de 14-18, etc. Ces fêtes, chez le peuple juif, elles avaient une signification commémorative, D'abord, elles avaient une signification agricole. C'était une société rurale. Et des fêtes comme les prémices, c'était les fêtes des premiers fruits. Ça voulait dire que dès qu'ils avaient quelques produits qu'ils pouvaient récolter, en signe de remerciement, ils remerciaient Dieu, ils offraient ses premiers fruits. Donc il y avait une signification agricole qui rappelait le déroulement des saisons. Il y avait une signification commémorative comme la Pâque qui leur rappelait leur sortie d'Égypte. Et ce qui est toujours dans le sens d'étudier la Bible et de mieux la comprendre, il y avait cette signification prophétique. La Pâque, en fait, on sait que Paul nous l'annonce, que Jésus-Christ est notre Pâque. Il est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. C'est toute la symbolique de la Pâque, en fait, pointe vers Jésus-Christ. Et il y avait aussi un autre sens, c'était un sens qui démontrait un sens personnel dans la vie du croyant, qui montrait comment le croyant était libéré. Et donc, 7 essentiellement à côté du sabbat, qui n'était pas une fête à proprement parler, mais qui se répétait toutes les semaines, et où on devait ne pas travailler, mais mettre un temps de repos. Le sabbat n'était pas fait pour. L'homme n'était pas fait pour le sabbat était fait pour l'homme, dans le sens où Dieu nous indiquait déjà que nous avons besoin de nous reposer. Dans notre société. De moins en moins, les gens prennent le temps de se reposer. Il y a un grand cuisinier qui s'est suicidé hier, je crois. Sa femme disait que ça fait des années qu'il n'avait pas pris un jour de vacances. Si seulement il avait respecté le sabbat. À côté du sabbat, il y avait d'abord la Pâque. Il y avait la fête des pains sans levain. La fête des premiers fruits. La fête de la Pentecôte, ou la fête, qu'on appelait aussi la fête des semaines. C'était 7 semaines après la fête des pains sans levain, de la fête de la Pâque. Cette fois, 49 plus 1 donnait le nombre 50, qui est pente en grec, d'où le mot Pentecôte. Il y avait la fête des trompettes, la fête des expiations, qu'on appelle aujourd'hui en hébreu le Yom Kippour. Et puis, il y avait la fête des cabanes, en hébreu Sukkot. Et toutes ces fêtes ont une signification très riche et même prophétique, puisque dans Jean, il est dit que Jésus est venu comme tabernaclé avec son peuple. Il est venu, il s'est incarné, il est devenu homme. Et dans l'Apocalypse, il est dit que Dieu habitera avec son peuple et que nous habiterons avec lui, comme dans un tabernacle. Ces sacrifices, lorsqu'on lit le Lévitique et le Livre des Nombres aussi, on est un peu écrasé par le nombre de détails et de prescriptions précises que Dieu a communiquées à l'homme pour tous ces sacrifices, pour tous ces fêtes. Et je crois qu'en fait, s'il y a autant de détails, c'est pour bien nous montrer que le péché est une chose grave aux yeux de Dieu. S'il y avait une petite formule pour se demander pardon à Dieu, pardonne-moi Dieu et restaure-moi, ça prendrait une ligne. En fait, là, il y a tout l'Ancien Testament qui prend les trois quarts de la Bible, qui adresse ce sujet, qui parle de ce sujet, parce que Dieu veut nous montrer que le péché, c'est pas quelque chose qu'on peut excuser en disant tout le monde le fait, c'est pas bien grave, Dieu est là pour pardonner. Vous vous souvenez, dans Romains, on dit que certains pensent qu'au contraire, plus ils pêchent et plus ils donnent à Dieu l'occasion de manifester sa grâce. Continuerons dans le péché pour que la grâce abonde? Certes non, s'écriait Paul. Et de la même façon, Dieu veut nous faire réaliser que le péché, c'est énorme. Et pour mieux nous faire apprécier le sacrifice de Jésus-Christ. Et tous ces sacrifices, toutes ces fêtes, toutes ces cérémonies sont des préfigurations sombres, sont des ombres de la réalité à venir, de ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsque nous comprenons par la complexité, par la lourdeur du système de sacrifice que Dieu exigeait dans l'Ancien Testament, avant que Christ n'ait payé notre péché sur la croix, c'est pour nous montrer que nous ne pouvons pas continuer dans le péché. Nous devons être tellement reconnaissants à Dieu pour le sacrifice de Jésus. Et comme on le dit souvent, la gravité d'une maladie se reconnaît à l'importance du remède. Si je vais chez le docteur, que je crois avoir un cancer et qu'il me dit non, c'est bon, prenez 2 aspirines et revenez me voir dans 6 mois, je serai bien rassuré. Par contre, s'il me dit, il faut, attendez, ne restez là, on va voir s'il peut vous accueillir à la Cassagne. On va commencer les rayons tout de suite. À ce moment-là, on sait que la maladie n'est pas une petite maladie. Et s'il a fallu rien de moins que le propre Fils de Dieu pour guérir l'homme de la maladie du péché, c'est que la maladie du péché est une maladie extrêmement grave. C'est la maladie gravissime, c'est la maladie dont nous mourrons éternellement. Le livre du Lévitique donc nous donne toutes ces prescriptions. On avait vu que l'alliance avec Abraham, que Dieu avait faite avec Abraham, n'était pas une alliance conditionnelle. Il promettait à Abraham de le bénir et de bénir les nations par sa descendance sans condition. Et ça, c'est un type, bien sûr, de la bénédiction de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Mais l'alliance qui a été faite avec Moïse, l'alliance qu'on appelle des fois l'alliance mosaïque, elle était conditionnelle sur leur obéissance aux 10 commandements. C'est pas comme si Dieu a changé d'avis, c'était pour les convaincre de la nécessité d'un sauveur, encore une fois. Le livre des Nombres, lui, prend son nom du fait qu'il y a dans ce livre, on parle de 2 recensements de la population du peuple d'Israël au départ de lorsqu'ils arrivent au Sinaï et puis à la fin lorsqu'ils sont prêts à entrer en terre promise. Et c'est ce que veut dire ce nom des Nombres. On a beaucoup de détails là aussi, les nombres sont très précis. On a des instructions pour cette traversée du désert. Il y a des ordres pour le campement, comment ils devaient s'installer, avec quelle tribu allait être au nord, quelle tribu allait être au sud, à l'est, à l'ouest. Et là encore, on pourrait dire ce sont des détails un peu rébarbatif de connaître, de savoir exactement combien il y avait de membres de telle tribu, de telle autre tribu. Mais je vous invite à un petit exercice, on ne va pas le faire ce soir, on pourrait presque, mais on n'a pas trop le temps. C'est de représenter le campement tel qu'il est décrit en laissant la place pour le nombre de personnes dans chacune des tribus. C'est-à-dire s'il y a 10 000 personnes d'un côté, vous pouvez faire un petit schéma avec 10 cm. Si de l'autre côté, il y en a 50 000, vous faites à l'échelle un trait de 50 cm. Et si vous faites ça, vous allez voir qu'en fait, si vous aviez survolé le camp des Israélites dans le désert, vous auriez vu une croix. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être inventé par des gens qui auraient écrit ce livre des milliers d'années avant que la croix ne se passe. Encore une fois, c'est Dieu qui nous fait un clin d'œil et qui nous dit « Je veux vous montrer que ce livre, ce n'est pas les hommes qui l'ont inventé, c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai inspiré. » Dieu qui, en dehors du temps, utilise les miracles, on l'a vu, lui peut les prophéties. Mais il y a plein de petits clins d'œil qui nous conforte dans l'idée que ça, c'est pas des inventions d'hommes, c'est vraiment Dieu qui veut nous communiquer son message d'amour. Livre des Nombres nous parle encore des Lévites, des différentes tribus, montre qui devait porter quoi dans le tabernacle. Il y avait des gens qui s'occupaient de porter la tente de toile, d'autres qui portaient les piquets, d'autres qui s'occupaient des cordages, etc. Et là, on voit que chaque personne a sa place dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est aussi un type, une préfiguration de l'Église, où ce qui compte, c'est pas nécessairement d'être l'arche de l'Alliance dans le Saint des Saints, mais c'est de trouver sa place dans le tabernacle. Et si une seule pièce avait manqué, le tabernacle n'aurait pas pu être construit. Une autre chose, une autre remarque, c'est qu'au milieu de ce camp qui était très long, très grand, il y avait près de, au départ, disons qu'il y avait 600 000 hommes en âge de porter les armes qui sont recensés. Ça fait près de 2 millions, on pense, de familles. Donc c'est quand même un grand terrain de camping. Ce qui peut frapper, c'est lorsqu'on lit les descriptions du tabernacle, de voir que c'était en fait tout petit. Le Saint des Saints, ça probablement aurait été cette petite place-là. Vous auriez été en plein dans le Saint des Saints. Quelqu'un faisait remarquer que c'était pour montrer qu'en fait, il y avait peu de personnes qui cherchaient vraiment Dieu. Sur ces millions de personnes, il suffisait d'un tout petit endroit pour venir, pour satisfaire ceux qui recherchaient Dieu. Et ça devrait nous interpeller. Est-ce que dans ma journée, est-ce que je prends le temps de chercher Dieu? Est-ce qu'il y a chez moi, dans ma vie, un autel? Un endroit où je prends le temps, où je cherche vraiment Dieu. Vous vous souvenez aussi de plusieurs prescriptions dans le livre des Nombres. Ils étaient guidés par la nuée dans la journée, il y avait cette nuée qui les guidait. Le soir, c'était l'aspect de feu. Il y avait une nuée qui prenait l'aspect de feu et qui les guidait. Et les Israélites suivaient le mouvement de cette nuée qui, encore une fois, représente la présence de Dieu et qui nous invite aussi à suivre Dieu, pas à le dépasser ou aller de côté, mais toujours à le suivre. Le peuple d'Israël ne cessait de se rebeller. Et ça aussi, c'est une condamnation de notre monde, de notre société, de ma vie, où le plus souvent, je critique ce qui se passe autour de moi au lieu de chercher à aider le mouvement. Ils se plaignaient de ce qu'ils pouvaient manger. Dieu avait pourtant pourvu à leurs besoins avec la manne dans le désert. Chaque matin, ils trouvaient de quoi manger. Mais ils se plaignaient, ils voulaient de la viande. Alors Dieu leur a dit, vous voulez de la viande, je vais vous en donner. Ils en ont mangé jusqu'à ce que ça leur reste en travers des dents et qu'ils meurent d'indigestion à un endroit qui s'appelait Kibroth Hattahava. Hattahava, c'est les tombes du désir. Si nous cherchons à satisfaire nos désirs charnels, Dieu va à un moment va dire, vous voulez satisfaire vos désirs, allez les satisfaire et venez au bout de vous-même. L'autre épisode célèbre, bien sûr, sont les 12 espions, deux qui voient la situation avec l'aide de Dieu et les autres qui disent non, on peut rien faire, on est trop faible. Un espionnage qui dure 40 jours, Dieu qui va les envoyer parce qu'ils ont manqué de foi, Dieu qui va les envoyer une année pour chaque jour d'espionnage, qui va les envoyer errer 40 ans dans le désert. voit beaucoup de révoltes, la révolte de Myriam, la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Le livre des Nombres reprend certains éléments de description du tabernacle. Il y a aussi l'histoire de Balaam, ce sage, ce prophète qui n'était pas chrétien, qui n'était pas juif, auquel le roi Balak demandait de maudire Israël. Et chaque fois qu'il essayait, c'était des bénédictions qui sortaient de sa bouche. On arrive pour dire là aussi qu'on ne peut rien faire contre la volonté de Dieu. On peut s'acharner contre son peuple, mais Dieu est avec son peuple et il le soutient jusqu'au bout. La peur, on voit le problème de la peur qui mène à l'incrédulité. Le peuple d'Israël avait peur de l'inconnu, peur du changement. Est-ce que moi, dans ma vie avec le Seigneur, est-ce que j'ai peur aussi de l'inconnu et du changement, ou est-ce que je lui fais confiance après avoir pris le temps de chercher sa volonté? Et quelqu'un dit que la peur, c'est la meilleure arme de l'ennemi, du diable. Avec la peur, il nous amène au découragement. Et il y a quelques semaines, je vous souvenez, on disait, c'est fou comment nos vies sont contrôlées par nos peurs. Bien souvent, si nous prenons le temps de nous arrêter, nous réalisons que nous réagissons à nos peurs. Peur d'être malade, peur de perdre du travail, peur de ne pas être aimé, peur de ceci, peur de cela. Et la peur, ce n'est pas un bon motivateur. La peur va nous conduire à ne faire que le strict minimum sans jamais nous rassurer. La vraie motivation, c'est celle de l'amour. Quand on aime, on ne regarde pas à la dépense, on est prêt à tout faire. Et l'amour, c'est un terme qui n'est pas utilisé dans le Lévitique ou dans le Livre des Nombres, mais c'est le terme qui forme en quelque sorte le thème du dernier livre du Pentateuque qui s'appelle le Deutéronome. Le Deutéronome, ça veut dire simplement la deuxième loi ou la répétition de la loi. Moïse va répéter à son peuple, plus exactement, vous vous souvenez que Dieu avait condamné tous les Israélites à mourir dans le désert, ne pas connaître la terre promise, sauf deux, Josué et Caleb, parce que eux étaient ceux qui faisaient confiance à Dieu pour leur donner la victoire. On connaît l'épisode aussi de Moïse à qui Dieu avait dit de frapper le rocher pour donner de l'eau à son peuple. Il l'avait fait une première fois. La deuxième fois, il devait simplement parler au rocher. Et là, devant l'incrédulité des Israélites, il avait frappé deux fois le rocher et Dieu l'avait puni en lui disant qu'il n'entrerait pas en terre promise. Il verrait la terre promise, mais il n'entrerait pas en terre promise. Et on peut trouver que c'est une punition très sévère pour cet homme que Dieu avait préparé pendant 80 ans avant de lui donner la direction d'une bande de 6 millions, de 2 ou 3 millions de rebelles, de gens qui rouspétaient sans arrêt. Lui qui était, comme il le dit de lui-même, ou comme il est écrit de lui-même, l'homme le plus humble, en anglais c'est « meekest man », l'homme le plus humble qui ait jamais existé, Dieu le punit sévèrement. Lui qui a aspiré tant à voir la terre promise, la terre qui avait été promise à Abraham, n'aurait pas la possibilité d'entrer en terre promise. Pourquoi? Alors certains disent que parce qu'en frappant le rocher une deuxième fois, Paul nous explique dans 1 Corinthiens 10 qu'en fait le rocher, 1 Corinthiens 4 je crois, regardez, le rocher qui les suivait, c'était Jésus lui-même. Là encore, un type de Jésus. 1 Corinthiens 10, 4. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Là encore, on s'aperçoit comment Dieu utilise des faits réels. Il y a eu ce rocher, mais c'était en fait une préfiguration de Jésus qui nous désaltère, qui nous donne à boire jusqu'à ce que nous puissions déborder et bénir ceux qui nous entourent. La punition en fait venait du fait que Moïse avait mal représenté Dieu. Moïse était en colère après ce peuple, mais Dieu ne l'était pas. Dieu est patient, Dieu merci, et sa grâce, sa patience, sa miséricorde sont des caractéristiques de sa relation avec nous. Moïse allait donc arriver presque en terre promise, mais pas jusque-là. Dans le Deutéronome, il y a les récits de deux grandes victoires qui reviennent sans arrêt dans l'histoire du peuple d'Israël. La victoire contre le roi Og, le roi de Bazan, et la victoire contre Sion, le roi de Heshbon. Et lorsqu'on lit les psaumes, lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, ces deux victoires reviennent comme une espèce de leitmotiv, on dirait. Et ça aussi, c'est aussi pour nous rappeler, trop souvent nous nous rappelons de nos échecs. Nous disons, je ne vais pas y arriver parce que dans le passé, quand j'ai été embauché, ça n'a pas duré longtemps. Je n'ai pas pu garder mon boulot, donc je suis condamné. Dieu veut que nous nous rappelions des victoires qu'il nous a données. C'est lui qui avait donné ces victoires. Il les avait données au peuple juif et il voulait qu'ils s'en souviennent pour leur donner confiance, leur rappeler qu'il était avec eux. Il voulait leur donner ces victoires comme des souvenirs. Qui allait dans leur histoire les réconforter. Il est question, on n'en a pas parlé, des villes de refuge, qui étaient un endroit où les Juifs pouvaient courir pour se réfugier lorsqu'ils avaient commis un meurtre involontairement. Quelqu'un coupait du bois et là, avec sa hache, la cognée partait et allait tuer son voisin. La famille aurait pu réagir violemment. Inconsidérément, il y avait cet endroit de refuge qui est là aussi un type de Jésus. Dieu est notre refuge, Jésus-Christ est notre refuge. J'ai dit que dans ce livre du Deutéronome, c'était en fait le livre de chevet de Jésus-Christ. Il est dit que Jésus disait lui-même qu'il n'avait pas d'endroit pour mettre sa tête, en disant que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Il n'avait pas d'oreiller, mais il avait un livre de chevet. Et ce livre de chevet, c'était le Deutéronome. C'est le livre qu'il cite le plus souvent dans les évangiles. Et ce livre, l'accent est mis encore une fois sur l'amour. L'amour comme base du gouvernement de Dieu avec son peuple. Et aussi l'amour comme la base sur laquelle nous devons obéir à Dieu. J'obéis à Dieu non pas parce que j'ai peur qu'il me punisse, mais j'obéis à Dieu parce qu'il m'aime et que je l'aime. Jésus, encore une fois, l'évangile de Jean prend tout un relief quand on connaît bien le Pentateuque. Lorsque Jean disait « Celui qui m'aime, c'est pas celui qui dit « Ah, je t'aime !» Celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté, par amour. Le peuple d'Israël, en fait, avait été donc la première génération, avait péri dans le désert. Dieu avait dit, vous n'entrerez pas en terre promise, vous n'entrerez pas dans mon reste, dans mon repos, parce que vous avez manqué de foi. Dans le livre aux Hébreux, il est question du repos dans le Seigneur et de l'incrédulité qui nous empêche d'entrer dans ce repos. C'est vrai que si nous manquons de foi dans la provision du Seigneur, dans ses plans pour nos vies, nous allons être complètement stressés, nous allons déprimer, nous allons être excités, nous allons des fois être joyeux, des fois complètement déprimés. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande d'être sûr de son amour, de le laisser agir en nous, d'être sensible à sa voix, vous vous souvenez, de savoir reconnaître sa voix. Pour ceux qui étaient à la montagne, on a appris à reconnaître la différence entre une pièce de 2 euros, une pièce de 50 centimes d'euros et une pièce de 2 centimes d'euros. Et on a vu qu'avec un peu d'expérience, on pouvait faire la différence entre ces différentes pièces. Et l'illustration, c'était que la pièce de 2 euros, c'était peut-être la voix du Seigneur. La pièce de 50 centimes, c'était peut-être la voix qui venait de moi-même, la voix de l'égoïsme. Et la pièce de 2 centimes, c'était la voix du diable. Et ces voix sont sans arrêt en train de solliciter notre attention, mais nous pouvons, avec un peu d'exercice, apprendre à reconnaître la voix du maître. Il y avait une compagnie de phonographes qui s'appelait la voix de son maître au début du siècle, où on voyait le chien qui regardait dans le grand haut-parleur à pavillon de son tourne-disque. Il entendait la voix de son maître. Ça, c'est, nous devons être capables de reconnaître la voix du maître. Il fallait donc redonner la loi à la nouvelle génération qui allait entrer en terre promise. Et cette deuxième génération comprenait bien cette notion d'amour, que le plus grand commandement, c'était d'aimer Dieu et ensuite d'aimer son prochain comme soi-même. Parole que Jésus va reprendre, qui viennent encore une fois du Deutéronome. Il citait sans arrêt le Deutéronome, si vous regardez bien dans les évangiles. Par contre, ils avaient un problème, ils n'ont pas passé le message à leurs enfants. Ça nous interpelle, nous qui sommes parents. Est-ce que le message que nous avons reçu de Dieu, est-ce que nous sommes fidèles pour le transmettre à nos enfants? Le livre qui va suivre, le Pentateuque, après, ça va être le livre de Josué, mais après, le livre le plus triste, c'est le livre des juges, où chacun faisait comme bon lui semblait. Et on voit que les enfants, dans par exemple le juge, livre, chapitre 2, verset 12, il est dit que ces enfants, donc de cette deuxième génération, les enfants, la troisième génération, avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et qu'ils s'étaient ralliés à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. Un abandon du vrai Dieu pour s'adonner aux idoles. Et c'est là que Dieu a dû, encore une fois, reprendre Israël par la colère, par les jugements. Et c'est ce qu'il fait aussi dans nos vies. Si nous nous éloignons de lui, si nous succombons à nos idoles, il doit nous reprendre par amour. C'est donc le message de la grâce de Dieu. Il n'est pas simplement dans le Nouveau Testament, contrairement à ce que certains croient. Jésus est déjà présent en type, en préfiguration dans l'Ancien Testament. Et l'amour de Dieu pour son peuple, il est déjà tout au long de ces cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse. On pourrait bien sûr parler de beaucoup d'autres épisodes. Je vais juste m'arrêter maintenant et vous demander si on a quelques questions. Comme ça, il y en aura quelques-unes sur la cassette. Est-ce qu'il y a, lorsque vous parlez de ces quatre livres qu'on a survolés à la vitesse grand V, encore une fois, je vous invite à les lire, à vous poser des questions. On a déjà étudié ces livres avec beaucoup de détails. On a dû faire une trentaine de semaines sur Josué, une trentaine de semaines sur le livre des Nombres. Donc chapitre par chapitre, on a des messages, des enseignements. Mais là, on veut voir l'idée d'ensemble. Dieu nous a parlé des hommes dans les premiers chapitres de la Genèse. Il travaillait avec des hommes, avec Adam, Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Dans cette deuxième partie du Pentateuque, il a travaillé essentiellement avec un homme, Moïse, puis on verra comment il travaillera avec Josué, mais il commence à s'adresser à un peuple. Il est, encore une fois, le peuple juif, c'est d'abord un homme, Abraham. Ils sont partis en Égypte comme une famille, ils en sont ressortis comme une nation. Une nation qui allait changer la face du monde et qui aujourd'hui encore fait la une des nouvelles. Parce que Dieu n'est pas fini encore avec le peuple d'Israël. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Je sais qu'il y en a plein, mais vas-y, parce que les questions que tu poses, il y en a peut-être d'autres qui se les posent.